Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus 106,6 FM pour le magazine Campus Lille Info, un magazine consacré à l'université d'une manière générale. Aujourd'hui, on va aborder un thème autour de la science puisqu'il va y avoir une grande fête qui va se dérouler du 6 au 15 octobre. J'allais dire, comme chaque année, on aura l'occasion de repréciser ça avec nos invités. Donc, pour nous parler de cette fête qui est porté par les universités de la région, hein, dans le cadre de l'Université de Lille. On va faire un petit tour de table avec tout d'abord Mme Florence Yéna, qui est chargée de la médiation scientifique au service culture de l'université. Bonjour Madame.
Bonjour.
Donc, on a l'habitude de se voir maintenant un peu régulièrement.
Oui, hein. Avec plaisir.
Et donc, on peut dire que vous coordonnez, donc que toutes les personnes qui sont là partagent un projet avec vous.
Alors en fait, la communauté d'université Lille Nord de France, organise un village des sciences à la gare Saint-Sauveur. Et c'est là que vont intervenir en fait les universités lilloises et aussi les organismes de recherche.
Donc, voilà.
Dans ce sens, on travaille ensemble.
Donc cette fête de la science sur Lille, on va dire, hein, l'agglomération lilloise, elle est sur plusieurs pôles. On va expliquer ça tout à l'heure. On fait un petit tour de nos invités. Donc Monsieur Vincent Voisin, qui est chargé de la communication de la médiation scientifique de l'île 2, bonjour.
Bonjour René.
Donc l'île, on va dire l'île 2, c'est l'université droit et santé, hein, maintenant on dit comme ça, l'île droit et santé.
Université de l'île droit et santé, oui.
Voilà, et donc composante de cette opération.
Alors là, ici, globalement, ça sera dans le cadre de la coordination au niveau de l'université de Lille. Donc après, on pourra voir avec Nicolas, Cyriel et puis Virginie. Dans le cadre du village des sciences, il va y avoir différentes animations. Et on pourra le développer également sur les différents sites liés à l'Université de Lille, savoir un peu comment ça s'organise aussi.
Très bien. Donc, je continue mon tour de table dans l'ordre de ce tour, justement, dans l'ordre, mon ordre des aiguilles d'une montre, avec Virginie Hoël, qui est maître de conférence IEMN. On peut peut-être préciser IEMN. Bonjour.
Bonjour. Donc, je suis enseignant-chercheur et j'anime la fête de la science dans la salle blanche sur le site de la cité scientifique.
Voilà. La salle blanche, c'est où ?
Alors cette salle blanche, elle est située dans un bâtiment de physique qu'on appelle le bâtiment P3.
D'accord.
Elle est au deuxième étage et c'est un environnement où on contrôle les poussières pour fabriquer les composants du futur et où on forme les étudiants justement pour développer toutes ces nouvelles technologies.
Très bien. Alors, notre petit tour de table, on le poursuit donc avec Mme Cyriel Chlon, bonjour, chargée de communication, relations presse de l'INA 1.
Bonjour René.
Alors, donc, la communication, on va en parler aussi avec Nicolas Constant, puisqu'il est journaliste web et qui s'occupe de la communication interne de l'Université de Lille 3.
Absolument, bonjour.
Voilà, donc la communication, c'est évidemment important quand on a une fête à présenter et à organiser. Donc, on va dire du 6 au 15 octobre, de nombreux événements gratuits. On a parlé un petit peu de la gare Saint-Sauveur, mais on peut revenir sur les différents lieux, peut-être. Alors, qui veut parler des différents lieux de cette semaine de la science ?
Donc, comme l'a si bien dit Virginie Hoël, ici sur le campus de la Cité Scientifique, il va y avoir deux actions de portée. La visite de la salle blanche donc, au bâtiment P3 et il y aura également l'ouverture d'Experium qui se situe dans la nouvelle bibliothèque centrale à l'IAD Learning Center Innovation. Donc cette action sera ouverte au grand public le samedi 15 octobre. C'est un lieu où l'on peut découvrir la recherche et l'innovation et la science en train de se faire. Actuellement, ils mettent en place la deuxième saison qui sera autour de la troisième révolution industrielle. Les participants pourront déambuler à travers 8 stands et expériences scientifiques qui seront tenues par des doctorants et des enseignants-chercheurs.
D'accord. J'espère que dans l'année, on aura l'occasion de revenir sur Experium et aussi sur cette salle blanche qui nous paraît bien mystérieuse. Alors, on va passer à Tourcoing. Qui veut parler de Tourcoing ?
Alors, à Tourcoing, il y a la visite du laboratoire Scalab. C'est un laboratoire tout jeune qui traite de beaucoup de choses, et en particulier du visuel. Alors, il y a un plateau technique assez intéressant où on étudie... Alors, ça peut aller de étudier le cerveau des gens quand ils regardent quelque chose. Ça peut être tout simplement, je ne sais pas, un livre, un site web ou quelque chose comme ça. Il y a des caméras particulières qui permettent de voir beaucoup plus de couleurs que ne le peut l'œil humain, des caméras pour le relief, etc. Et donc, dans ce laboratoire, on fait des choses qui à la fois intéressent, peuvent intéresser l'industrie, simplement, pour savoir comment, ce que fait un consommateur, etc. Mais aussi, il y a des travaux, des collaborations avec des artistes. Je pense, voilà, récemment, il y avait une espèce de dessin en trois dimensions qui était analysé et équipé, enfin, matérialisé par toutes sortes d'appareils. Voilà.
D'accord. Alors, on va passer à Lille. On a un peu évoqué quelques grands lieux, mais on va poursuivre.
Alors, je fais la jonction avec ce que Nicolas vient de dire. Là, au niveau des dates, ça sera principalement sur Tourcoing du 7 au 8 octobre. Mm-hmm. Et principalement, ça sera ouvert au grand public le samedi.
Est-ce qu'on peut dire que les dates s'enchaînent pour qu'il y ait une possibilité pour les gens d'aller partout ?
Alors, effectivement, dans la façon dont on est en train de présenter les événements, ça se fait plus ou moins de façon antichronologique. L'essentiel va commencer le 6 jusqu'au 9 octobre. Et Florence Siena aura l'occasion d'en parler avec le Village des Sciences. Ensuite, ça va s'embrayer avec Scalab, AirDive, qui va ouvrir ses portes à Tourcoing du 7 au 8. Et pour terminer, sur Villeneuve-d'Ascq du 13 au 15 octobre, avec Xperium et la Salle Blanche.
Alors, je le dis tout de suite, mais il y a un site web de référence. Hein, comme ça, on sera bien sûr de ne pas se tromper.
Alors, d'entrée de jeu, effectivement, c'est www.univre-lille.fr. Vous allez retrouver tous les événements. Et donc, pour en venir sur Lille, ça sera le vendredi 7 octobre, principalement du matin, ouvert aux scolaires. Ça sera la présentation du centre de simulation Présage.
D'accord. Alors,
et si je peux continuer aussi sur la lancée, principalement ce qui sera, on va dire, proposé au grand public, le jeudi 6 octobre, à partir de 18h30. Donc ce sera une conférence, ce débat qui sera ouvert au grand public, sur réservation, et ça portera sur le thème « Cycle de vie, consommateur, produit, territoire ». C'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a peut-être pas eu trop l'occasion d'en parler, mais le thème régional, c'est le cycle de vie. Donc avec possibilité de s'inscrire en ligne, ça se passera dans la salle de spectacle de l'Université Lille Droit et Santé, ou un bis rue Georges Lefebvre à Lille.
L'entre-deux.
Donc, à l'entre-deux, exactement. Et ça portera sur les thématiques consommateurs et cycle de vie, le cycle de vie des produits, et également de l'analyse du cycle de vie environnemental à l'analyse du cycle de vie territorial. Et ça sera animé par des chercheurs donc, de l'Université de Lille et Schema Business School.
Alors il y a aussi le vendredi quelque chose qui est autour de la médecine, on va dire, de manière globale.
Alors c'est ce que je disais au préalable. Effectivement, ça sera d'avoir un focus sur la recherche et la pédagogie médicale par rapport au centre de recherche Présage. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des éléments qui seront proposés aux scolaires sur la simulation médicale. Donc là, c'est-à-dire que globalement, c'est un centre de simulation qui permet de voir un peu comment les futurs médecins travaillent sur les mannequins en termes de simulation. Voilà, c'est ce qu'on appelle des simulateurs de pointe. Et ils vont apprendre les gestes de leur futur métier en particulier.
Qu'est-ce qu'on peut faire comme parallèle entre ce qui va être présenté là et la recherche, on va dire, pointue qui se fait dans les labos? On présente vraiment la recherche au grand public ou on attend encore un peu?
L'idée, c'est ça, c'est d'ouvrir les portes au grand public par rapport à ce qui se passe dans les laboratoires. C'est un peu comme si c'était, en temps normal, une défense d'entrée. Mmh. Et là, c'est la façon aussi de valoriser ce qui se passe dans les équipements de pointe, présenter les équipements de pointe, ce qui se passe dans les laboratoires de recherche, de façon, on va dire, vulgarisée, ouvrir au grand public.
Il y a encore des choses un peu secrètes, néanmoins.
Ah, ça, faudra venir dans cette période. Ça sera, ça sera l'occasion de voir un peu tous les événements et tous les lieux, on va dire, dits...
sensibles.
Peut-être pas sensibles, mais on va dire qui ont encore des secrets, quoi.
Florence, cette opération faite de la science, on imagine qu'il n'y a pas qu'à Lille que ça se passe?
Non, effectivement, c'est donc dans toute la France. C'est donc des dates communes où il y aura des milliers d'événements partout en France portés par les organismes de recherche. Donc c'est vrai que sur la région aussi, il y a le CHRU, l'INSERM, l'Institut Pasteur qui ouvrent leurs portes au public. Et les universités, mais aussi des associations, voire même des lycées qui font des choses un peu particulières et qui ouvrent aussi leurs portes au public.
On imagine que l'intérêt, c'est de motiver des jeunes à entreprendre des études dans le domaine scientifique.
Alors, il y a de ça, mais pas que. Je dirais même que c'est, enfin, pour moi, c'est un objectif un peu secondaire. C'est vraiment, je pense, pour prendre l'exemple du Village des Sciences, l'idée, c'est que les gens soient au contact direct, en fait, des scientifiques. Et c'est des gens qu'on, voilà, on n'a pas l'habitude. On se demande qui sont ces gens, pourquoi cherchent-ils, que cherchent-ils. Et du coup, là, on peut vraiment avoir une image plus concrète, poser des questions en direct, savoir que c'est des personnes comme tout le monde, en fait. Et aussi se rapprocher de des sujets de recherche, donc mieux comprendre tout ça, comment ça se passe, qui effectue. Donc là, peut-être.
Je confirme que nous sommes tout à fait accessibles. Et que c'est l'occasion, effectivement, d'ouvrir, je dirais même au-delà de l'étudiant, d'ouvrir aux citoyens. Tout ce qui est développé aussi dans les laboratoires et tout ce qui prépare l'avenir par rapport au sujet aussi, il y a des sujets qui sont confidentiels et puis il y en a d'autres qui relèvent directement du grand public et que l'on peut présenter
donc
facilement.
Vous, Virginie Noël, vous êtes maître de conférence. Comment on approche, on appréhende, on va dire, un public un public qui vient, qui n'est pas forcément fait de la recherche ou de ce qui se passe dans les universités. Il y a des gens qui découvrent peut-être ce jour-là des univers qu'ils ne connaissaient pas.
On a déjà reçu une classe de CM2.
Ben oui.
Voilà, tout à fait. Et on peut leur expliquer, en fait, avec une approche, par exemple, en partant du diamètre d'un cheveu. Voilà, donc on part du diamètre de ce cheveu que l'on place sous un microscope. Et au fur et à mesure, on va avancer avec eux sur le domaine des dimensions, sur les outils de caractérisation, sur les limites de la vision de l'œil. Et on va, comme ça, passer d'atelier en atelier pour leur expliquer ce que l'on prépare pour l'avenir. On leur fait prendre conscience aussi de ce qui n'existe pas. Par exemple, les téléphones portables actuellement sont rigides et on développe beaucoup de nouvelles technologies pour apporter la flexibilité et la souplesse aux nouveaux dispositifs.
Salvador Dali avait inventé les montres molles. Hein, mais je crois que le téléphone, ça commence à se faire aussi.
Voilà. Donc on va les sensibiliser à tout ça. On a aussi, par exemple, des vitraux. Les vitraux qui sont utilisés dans le domaine artistique pour faire des nouvelles créations et qui sont en fait composés de nanoparticules. Et suivant les nanoparticules que vous allez utiliser, vous allez changer la couleur des vitraux. Donc on peut, par des moyens d'ouverture, amener à expliquer comment on va procéder et puis ensuite apporter des informations complémentaires et de la science et de la physique et des mathématiques.
Alors, là, la question est posée à tout le monde. Là, on est sur des rencontres, hein, on va dire des temps de présentation avec des personnes qui peuvent expliquer des choses. Je pense que ça fait une grosse différence avec ce qu'on peut voir éventuellement comme présentation de recherche sur Internet, des sujets qui existent. Là, on est plus proche des gens pour aller au fond de leurs réflexions.
On est au plus proche des gens pour écouter leurs questions et c'est finalement le plus simple. Écrire un article, on ne sait pas forcément si c'est ce qu'attend le lecteur, si ça va l'intéresser. Là, il se trouve confronté directement avec l'objet de la science et il y répond. Il se dit, mais pourquoi ça? Et tout d'un coup, le chercheur parfois entrevoit des questions qu'il n'avait pas forcément creusées attentivement. Il se nourrit de tout ça, je pense.
Je pense aussi que c'est aussi mettre, que ce soit des lycéens ou du grand public, dans une position d'acteur et pas seulement de spectateur. Les actions qui vont être portées dans le cadre de la fête de la science ne sont pas que des présentations. Il faut vraiment qu'il y ait une interaction entre le chercheur et le public. Sinon, on se retrouve tous dans un amphi et puis on écoute la présentation sans qu'il y ait vraiment d'échange. Là, c'est vraiment une fête pour la science, mais dans l'échange entre le public et la communauté scientifique.
D'accord.
L'idée, c'est de partager des savoirs, c'est mieux comprendre la science et aussi ses enjeux.
Est-ce que, après ces visites-là, vous conseillez d'aller sur un site, pourquoi pas celui de vos universités ou de votre labo de recherche, en disant ben, cette question-là, nous, on la présente, on la développe là, et les gens peuvent aller plus loin ?
Alors, pour moi, c'est important que les gens sachent tout simplement qu'il y a de la recherche dans les universités. Parce que c'est pas toujours évident pour eux. L'université, c'est pour beaucoup de gens encore des amphis et des étudiants de première année, etc. Mais face à eux, ils ont des gens qui creusent des questions, qui sont des spécialistes de leur domaine, qui sont des gens qui ont une culture assez extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est vraiment c'est précieux. Et pour moi, des événements comme la fête de la science, c'est vraiment bien de pouvoir y aller, parce que c'est ce contact direct, on l'a pas souvent, parce que voilà, simplement, c'est pas organisé comme ça.
Voilà, donc on peut dire que pour les gens curieux, c'est le moment ou jamais de poser des questions, d'échanger aussi sur des problématiques peut-être plus larges, c'est-à-dire à partir de cette recherche, où pourrait aller le monde, non ?
Bah absolument, enfin, je pense que voilà, un chercheur, peut-être plus qu'un autre, se pose des questions sur l'application de ses recherches, leur avenir. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de travailler dans le nucléaire pour se poser des questions qui résonnent avec la marge de la société. Quoi.
Florentienne.
Oui, par rapport à René, ta question sur les internautes, mm-hmm. En fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'internautes aussi qui se tournent sur les chaînes YouTube. Alors, il y a des amateurs ou des chercheurs ou des institutions, donc ils montent des chaînes YouTube pour faire des vidéos sur la science. Mm-hmm. Et justement, à ce sujet-là, donc, on organise, en parler du village des sciences, une table ronde pour étudier cette question de la science sur YouTube, en présence de vidéastes amateurs et aussi de chercheurs. Donc, pour un petit peu démêler, est-ce qu'on peut faire confiance à ces vidéos, comment s'en servir, qui se cache derrière, voilà. Donc, c'est, pour les internautes, ça peut être intéressant.
C'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri de manipulations. Vous les ressentez, vous, sur les réseaux sociaux ou sur... les chaînes comme YouTube ou d'autres.
Pour moi, enfin, je veux dire, ma réaction vis-à-vis de ce qui a émergé il y a déjà pas mal d'années hein, sur YouTube, c'est quand même un renouvellement du genre. Enfin, je veux dire, moi, j'ai, enfin, voir des gens comme ça se saisir de sujets scientifiques venus d'un peu nulle part. Hein, c'était quand même le cas. Et puis. Essayer de l'expliquer et se poser des questions sur comment l'expliquer et interagir avec les gens qui écrivent des commentaires en dessous de leurs vidéos. Enfin voilà, moi je retiens avant tout le positif. Après, je veux dire, bon, Internet, ça rend public tout le monde et le monde dans sa diversité et aussi dans ses bêtises, ses erreurs, etc. Mais bon, je veux dire, ça, je crois que c'est une éducation maintenant qu'il faut. Qu'il faut transmettre à nos enfants, qui décodent
alors,
tout ça.
Ça, c'est effectivement une bonne réflexion. C'est-à-dire qu'un enfant, a priori, les parents l'accompagnent. Est-ce que ce jour-là, ce serait bien que ce soit un moment aussi d'échange entre les enfants et les parents par rapport à ces questions qui se posent, peut-être aussi pour les parents, d'ailleurs
on encourage les familles à venir. Enfin, voilà, je pense que c'est...
J'allais ajouter que de toute façon les événements de la fête de la science sont en général très familiaux et que tous les âges peuvent y venir, donc c'est vrai que de manière générale les gens viennent en famille, donc ça c'est plutôt positif.
Et en plus c'est gratuit.
Voilà. C'est gratuit. Alors on rappelle que cette fête de la science a lieu du 15 octobre, voilà, que se passe partout en France, mais voilà, dans notre région bien représentée.
Alors moi, j'aurais juste une petite événement surprise à vous communiquer. C'est donc un nouvel événement qu'on monte avec deux partenaires, qui est le Cabaret des sciences et qui va essayer de mêler science et humour. Donc en fait, l'idée, c'est que des doctorants vont se prêter au jeu et vont mettre en scène leur sujet de recherche par le biais de sketch. Donc n'hésitez pas à venir, ce sera à Saint-Sauveur aussi.
D'accord. Je sais qu'il y avait aussi des choses intéressantes. On aurait pu éventuellement un jour le faire, c'est ma thèse en 180 secondes ou des choses comme ça.
Alors bah, y aura hein, pour, enfin, sur le village des sciences, des anciens, voilà, je pense à de chez nous, de l'île 3, Cyril Balagui, qui avait eu le prix du jury en 2015, qui va faire un atelier sur la mythologie pour les scolaires.
Et il sera aussi sur le cabaret des sciences, voilà. Sur SEM.
Voilà, donc ces scientifiques qui sont souvent considérés comme coupés du monde dans leur labo, en fait, ont aussi une vie au-delà.
Oui, ils font du théâtre, ils font de la musique, enfin vraiment, c'est fou, quoi.
Et c'est vrai que les universités, maintenant, proposent au personnel, mais aussi aux étudiants, bien sûr, beaucoup d'activités culturelles. On en a parlé la semaine dernière avec ces rentrées qui se font la semaine d'avant sur les universités. Donc, voilà, c'est peut-être une spécificité... je pense en France largement développée maintenant. Au début, la culture dans les universités, c'était un peu regardé bizarrement. Maintenant, c'est bien ancré.
Il y a un réseau national qui s'appelle AUC, Arts, Université, Culture, qui essaie de coordonner un peu des actions aussi pour mettre en avant la culture universitaire. Je pense que ça dépend aussi des universités. Il y en a qui aussi ont plus de moyens que d'autres. Mais d'une manière générale, c'est quand même une culture qui a ses particularités et qui mérite d'être défendue.
Alors, c'est vrai qu'on parle de moyens. Hein. Vous parlez de moyens. Souvent, ces moyens sont liés aussi à des bilans qui sont faits des universités. Et peut-être que les plus qui sont démontrés ramènent d'autres moyens. Finalement.
Alors, j'espère, mais je ne suis pas au ministère pour savoir les décisions qui sont prises.
Voilà. Est-ce que les actions comme vous faites sont intégrées par exemple dans les classements Shanghai ou d'autres?
La fête de la science par elle-même, non.
Non.
Tout ce qui va rentrer dans le classement de Shanghai aussi, et ce qui est très important pour une université et par rapport aux chercheurs, c'est tout ce qui va être publication également. Après, il y a effectivement tout l'environnement qui est offert aux étudiants. Et puis, bien sûr, il faut de tout, mais c'est quand même principalement toutes les nouveautés et tous les résultats qui vont être les meilleurs au niveau international qui vont aussi compter dans le classement de l'université.
Alors, c'est vrai que l'université de Lille est j'allais dire, assez sollicité par des étudiants qui veulent s'y inscrire à la rentrée. Hein. Là, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui sont arrivés. Est-ce que pour eux, c'est aussi une façon de découvrir, d'une certaine manière, les atouts de cette université?
Ben je l'espère, oui. J'espère que par la culture, toutes ces actions qu'on mène, ces expositions, enfin que mènent les services culture des universités, que de cette manière qu'ils peuvent un peu entrer dans la culture française et aussi apporter eux-mêmes par ce qu'ils sont, par d'où ils viennent, des choses en retour à notre université.
Voilà. Et puis par rayonnement, eux communiquent aussi à leurs amis, leurs collègues qui sont dans leur pays, l'intérêt que présente l'université où ils sont.
Ah ben j'espère, oui. L'université, c'est quand même des dizaines de milliers d'étudiants. Mmh. C'est quand même un endroit très riche avec des gens qui travaillent sur des choses très différentes. Donc j'imagine qu'ils passent un peu de ça au cours de leur séjour.
Alors, si on parle du calendrier, on va dire, de cette rentrée, il y a eu la rentrée culturelle, hein, qui n'est pas terminée encore, mais c'est la rentrée culturelle. Il y a la fête de la science, donc du 6 au 15 octobre. On voit que ça s'enchaîne très vite. Il faut déjà préparer tout cela. Hein. Enfin, je veux dire, il y a du boulot derrière.
Allez, je pense que mes camarades peuvent témoigner que la rentrée dans les services de communication, en tout cas, et dans beaucoup d'autres, est assez chargée, oui.
Voilà, mais en tout cas, on vous souhaite une belle rentrée à toutes et à tous. Donc, on rappelle au public que du 6 au 15 octobre, c'est la fête de la science, notamment dans la région métropole lilloise, avec l'Université de Lille. On vous donne le site incontournable qui est donc...
www.udiv-lille.fr.
Voilà. Et aussi fêtesdelascience.fr.
Ah oui,
oui, voilà. Un complément.
Très bien, ben, merci, très bonne fête à toutes et à tous.
Merci.
Merci. Merci.
À la prochaine. Thank you.